Et tout de suite,
si vous... Sud Radio, Berkoff dans tous ses états. Midi 14h, André Berkoff.
Nous sommes en guerre. Nous sommes en guerre. Nous sommes en guerre.
Ah, et quelle guerre, et quelle guerre, hein. Les manifestations partout, l'Amérique, la France. La France, et on découvre qu'il y a un racisme, un seul racisme dans le monde, c'est cet Occident. Oui, il n'y a que eux, il y a là qu'on est raciste. On va en parler parce qu'il y a un véritable problème qui est posé, et il y a des petits groupes qui essayent de faire basculer tout le monde dans l'assignation à résidence ethnique, communautariste, religieuse et autres, pour effectivement profiter d'une perspective qui s'appelle quoi ? La guerre ? Encore la guerre ? Toujours la guerre ? Non, ça suffit comme ça. On va en parler, on va parler aussi de professeur Delfrécy, qui fait un virage à 180 degrés très intéressant. Et puis on va recevoir l'économiste Patrick Artus sur les bas salaires, sur après 40 ans d'austérité salariale, qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui, surtout après cette crise du coronavirus qui est en train de finir, mais... Les conséquences, elles vont être nombreuses. À tout de suite.
Ici Sud Radio. Les Français parlent aux Français. Les carottes sont cuites. Les carottes sont cuites.
Sud Radio, Berkoff dans tous ses états.
Eh oui, dans tous mes états, mais je suis pas le seul, hein. Un peu partout, tout le monde, ou presque, et dans tous ces états, en tout cas dans la rue, que ce soit San Francisco, Londres, New York, Melbourne, Australie, partout, Paris, Toulouse, etc. Eh bien, dans la rue, terminez le confinement. Terminez les distances et les gestes barrières. On n'en a plus rien à faire, en tout cas, des milliers, des dizaines, des centaines de milliers de personnes n'en ont plus rien à faire, légitimement ou non. Mais, alors d'un côté, vous entendez ce discours magnifique. Attendez, pas de réunion, pas de truc, pas plus de 10 personnes à table, etc., etc. Les restaurants, attention, en terrasse, mais pas à l'intérieur. En revanche, dans la rue, allez-y les gars, 10 000, 20 000, 50 000 personnes, aucun problème. Mais alors, pourquoi ils se réunissent? Eh bien, ils se réunissent peut-être pour des bonnes raisons. Mais quand on arrive à entendre ça, écoutez bien, ça se passe à Londres hier, écoutez. Voilà, vous avez bien entendu, Churchill was a racist. Churchill était raciste. Oui, Churchill. Il y en a un qui doit se retourner dans sa tombe, mais mourir encore une fois de plaisir, c'est Hitler. Formidable, hein ? Je vais dire, vraiment, tout va bien. Voilà, eh bien, Churchill est un raciste. Vous savez, c'est le même Churchill qui disait, oui, il y a, je crois, une quarantaine d'années, il disait, les fascistes d'aujourd'hui seront les antifascistes de demain, en tout cas, se proclameront et se nommeront antifascistes de demain. Qu'on en arrive là, qu'on en arrive à dire, voilà, Churchill est un raciste. Et c'est pas que là, hein. Qu'est-ce qu'on a entendu dans les manifestations samedi dernier? Eh ben, on a entendu la Ligue de défense noire africaine, mais il n'y a pas qu'elle, qui, le porte-parole, s'est exprimé, d'ailleurs, devant le restaurant Maxim's, donc c'était rue Royale à Paris. Et voici ce que nous avons entendu. Écoutez.
Cette vérité que les médias ne veulent pas entendre, cette vérité que le système ne veut pas entendre, la France, je dis bien, la France, c'est-à-dire l'État français, est un État totalitaire, terroriste, esclavagiste, colonialiste.
Oui!
Alors vous imaginez ce qu'ils font en Afrique ?
Oui, c'est vrai. C'est vrai, l'État français, totalitaire, colonialiste, exploite son propre peuple. Alors, imaginez ce qu'ils font en Afrique. Je rappelle simplement qu'en Mauritanie, l'esclavagisme existe encore. Il faut le dire qu'en Afrique, dans certains pays d'Afrique encore, comme en Libye ou en Mauritanie, des milliers d'esclaves noirs sont vendus, je dirais tous les jours. Mais ça, non, non, c'est la France. La France est évidemment pire que Pol Pot, que Hitler, que Mussolini, que aujourd'hui, quoi, la Corée du Nord, etc. Voilà, on continue. Et à quelques mètres, à quelques centaines de mètres, on a entendu ça. On a entendu ça, écoutez, c'était juste devant l'Assemblée nationale. Écoutez.
Peuple ne nous aime pas, et là je parle des Noirs. Je parle des Noirs et je vais vous le prouver. Là on est ici, il y a la police, mais là-bas, il y a l'Assemblée nationale. Et devant l'Assemblée nationale, il y a la statue de Colbert, ce gros fils de pute qui est ici. Le code noir qui a décidé que les noirs n'étaient pas des êtres humains.
Eh oui, ces Français racistes, ce gros fils de pute de Colbert. Et ça a suscité le tweet de quelqu'un que j'aime beaucoup, qui est un intellectuel, qui est quelqu'un qui est un blogueur très influent, qui est Verlaine Jenny. Et voici ce qu'a écrit Verlaine, a tweeté Verlaine. Il a tweeté « Ce n'est pas possible d'entendre de telles âneries. J'accuse Christophe Castaner et en tant que noir, je voudrais m'excuser auprès des autres Français qui ne sont pas de la même couleur que moi pour les propos tenus par ce monsieur. J'ai honte, vraiment honte. » Verlaine Jenny, bonjour.
Bonjour André.
Bonjour. Verlaine, au-delà des imprécations, de tout cela, etc., de ce qui se passe, de cette espèce de montée quand même de cette haine. Alors, nul doute qu'évidemment que la police a fait aussi des choses lamentables, que chacun, que chaque... Il n'y a pas le monopole de la violence d'un côté ou le monopole de l'imbécilité d'un côté ou de l'autre. Mais comment on en arrive à ça? Que, voilà, on est en France, la France est le dernier des pays, Colbert, c'est une espèce de salaud, alors que c'est beaucoup plus compliqué que ça, le code noir. Verlaine, comment vous sentez ça? Comment vous ressentez? Allez-y.
Alors, André, déjà, il faut recadrer les choses. Hein, il faut recadrer les choses parce que ce qui s'est passé à Minneapolis, c'est vrai, c'est horrible. Il est regrettable de voir que ce pauvre George Floyd est mort de cette façon. Il est regrettable de voir que les abrutis nuisent à l'image de la police, que ce soit là-bas ou ici. Mais pour autant, revenons-en au fait. George Floyd, c'est pas le dernier des Pedro, quand même. C'est pas quelqu'un qui était tout propre. On peut pas en faire un Nelson Mandela ou un Martin Luther King. Une fois qu'on a dit qu'on regrette sa mort, une fois qu'on a dit que le policier n'a pas assuré et qu'il mérite un jugement, qu'il mérite
une grosse sanction.
Une fois qu'on a dit ça, et qu'on revient chez nous, j'ai entendu et j'ai pas été le seul. On a été plusieurs à entendre. Des personnes mettre en avant le nom d'un autre, j'oserais pas dire délinquant, de peur de me faire lyncher, d'une autre personne connue, Adama Traoré en l'occurrence. On a dit que Adama Traoré, le cas Adama Traoré est comparable à celui de George Floyd. Ok, pas de problème, on va laisser la justice faire son travail. Mais quand on finit de dire tout ça, pourquoi on en arrive à accuser la France, accuser la police française de racisme? Pourquoi on en arrive à cela? Pourquoi des personnes dites noires, parce que le pire il est là, hein, pourquoi des personnes noires osent accuser la France de racisme, sachant que ce pays-là, ce pays qui nous a tous accueillis, nous, noirs, et là, je me permets de ne parler que des noirs, hein, je n'introduis pas les autres races, moi j'ose le mot, hein, voilà. La France a accueilli les noirs depuis des siècles, la France a accueilli des familles de noirs, la France a tout donné à des familles, la France a été respectueuse à plusieurs générations d'Africains. C'est vrai, je suis totalement d'accord avec toi, André. La colonisation n'a pas été toute blanche, elle n'a pas été toute bien propre, sûr. Mais aujourd'hui, il faut arrêter d'accuser la France de ce qu'elle n'a pas fait. Il faut arrêter de dire que la France est raciste. Le racisme n'existe pas qu'en France. Le racisme n'est pas qu'en France. Le racisme n'est pas dans le corps de métier de la police. Il est partout, le racisme. Le racisme, c'est quelque chose qui est en chacun d'entre nous. On a tous un petit côté de nous raciste. Il faut pas dire que la société française est raciste. C'est faux, c'est pas vrai. Et ça, quand j'ai entendu ce bonhomme, enfin le monsieur de de LDNA accuser la France d'être un pays totalitaire. Mais est-ce qu'il sait ce que c'est totalitaire? Est-ce qu'il sait ce que c'est totalitaire? Qu'il aille dans son pays d'origine, l'Afrique, qu'il aille voir ce qui se passe au Congo, qu'il aille voir ce qui se passe dans son pays d'origine, il verra ce qu'on appelle un État totalitaire. Qu'il aille voir ce que les ce que les policiers de son pays d'origine ou du pays de ses parents font. C'est là, c'est ça, c'est ce qui se passe là-bas, c'est ça le totalitarisme. On n'est pas dans un pays totalitaire. Qu'il s'excuse de ce qu'il a dit. Pourquoi j'ai accusé Castaner? Castaner n'a pas le droit de laisser faire ça. On ne peut pas insulter autant la France. J'enrage, André, j'enrage. Je suis noir, mais là, je suis vert de colère.
Mais non, mais je comprends. Mais comment on peut arriver là et comment on peut laisser faire ça? Comment on peut arriver là?
On en est arrivé là depuis, souviens-toi, cher ami Mitterrand. Enfin, déjà, j'ai eu la chance, parce que là, j'ai 54 ans, donc j'ai eu la chance de connaître Giscard et Mitterrand. On en est arrivé là parce que ces deux présidents-là ont ouvert les vannes. Il faut se dire les vérités. Hein. Je le dis, pourtant, je suis pas de souche. Ces deux présidents ont ouvert les vannes. Le premier ce qu'on appelle le regroupement familial, même si on peut aujourd'hui dire que ça a été à notre avantage, enfin à l'avantage de la France, puisqu'il a permis à des milliers de bras d'ouvriers de venir travailler dans les usines de Peugeot et de Renault, mais ça n'empêche que on voit aujourd'hui la conséquence de ce regroupement familial. Ensuite, il y a Mitterrand qui a nui à la France avec cette victimisation qu'il a installée depuis Malik Oussekine. C'est incroyable, comment est-ce que la France est tombée si bas? On ne peut plus rien dire en France. On ne peut plus rien dire si on est blanc, je veux dire, je précise. On ne peut plus rien dire si on est blanc depuis Mitterrand. On ne peut plus rien dire parce que il y a une sorte de police, le totalitarisme, il ne vient pas des blancs. Il vient des minorités, ce totalitarisme. Il y a une sorte de police des minorités qui est là, qui contrôle et qui décide de ce que tu dois dire. Et c'est grave.
Oui, mais c'est grave, mais heureusement, il y a de partout et dans toutes les communautés des gens comme Verlaine Jenny et comme d'autres qui se foutent effectivement du communautarisme, qui se foutent. On s'en fout de la couleur de la peau, on s'en fout de ça. Ce qui compte, c'est la qualité humaine des personnes. Et quand on voit que des gens qui exploitent, ils exploitent ça comme un marché, ils exploitent ça comme un fonds de commerce et cultivent la haine et cultivent les braises Verlaine, je crois qu'on va vers des lendemains qui déchantent. Je ne sais pas ce que tu en penses.
Mais il faut avoir foi, parce qu'en fait, ils sont en train, en faisant ça, ils sont en train de réveiller toute la société française. Il n'y a pas que les blancs qui se réveillent. Il y a aussi des gens comme moi qui ne sont pas blancs, qui se réveillent, qui comprennent aujourd'hui que ce business-là, parce que j'appelle ça un business, ce business-là, il ne peut pas continuer, parce qu'il y a un risque qu'on fracture définitivement la société française. Donc il y a des gens qui ne sont pas blancs aujourd'hui, qui n'approuvent plus cette démarche, cette façon de faire. On veut forcément tendre la France vers un manichéisme totalement barbare, quoi, où on est pour ou on est contre. Non, on veut pas ça. Il faut laisser à chacun son libre arbitre. Il faut permettre à chacun de dire, de faire ce qu'il veut et de respecter la société française. Voilà. Donc moi, je pense qu'il n'y a pas à s'inquiéter parce que dans très peu de temps, il y aura sûrement et certainement une remise en cause de toutes ces actions-là. On a des gens comme tu m'as cité, mais il y a également Patrice Carteron. On a des gens aujourd'hui qui se réveillent et qui ne veulent plus.
Et beaucoup d'autres. Voilà. Et beaucoup d'autres. Merci beaucoup Verlaine. Je rappelle quand même que les manifestations de mardi dernier avaient été interdites par la préfecture de police en raison de l'état d'urgence. Il y a eu 20 000 personnes. Je rappelle qu'on interdit les rassemblements de plus de 10 personnes. Je parle même pas du 30 mai de la manif des sans-papiers des clandestins où effectivement les autorités avaient interdit, elle a eu lieu, mais ils avaient interdit spécifiquement la manifestation de mardi dernier. Elle a eu lieu quand même. En revanche, je vous annonce, auditeurs de Sud Radio, sachez que le manif des soignants, hein, ça c'est des gens qui soignent, hein, c'est pas des gens qui distillent la haine. Eh bien, la manif des soignants vient d'être interdite par la préfecture de Paris pour des raisons sanitaires. Voilà, et je suis sûr qu'ils seront très nombreux à surveiller de voir si cette manifestation a lieu ou pas. La manifestation, je rappelle, des soignants, voilà où on en est dans ce cher et doux pays. Hein. Tout va bien dans le meilleur des mondes. À tout de suite.
Et s'il y a bien une police des minorités qui vous surveille ou qui contrôle votre parole, vous êtes ici sur Sud Radio et à partir de 13h, vous nous appelez au 0826 300 300. Vous pouvez évidemment réagir à toutes ces manifestations anti-violence policière, également pour les raciser, vous l'avez entendu. Mais vous pouvez également nous parler d'autres sujets. À tout de suite.
radio. Les Français parlent aux Français. Je n'aime pas la blanquette de veau. Je n'aime pas la blanquette de veau.
Sud Radio, Berkoff dans tous ses états. Sud Radio, André Berkoff.
Ça balance pas mal.
Berkoff dans tous ses états, ça balance pas mal sur Sud Radio.
Viens voir le docteur.
Ah oui, 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 viens voir le docteur et surtout viens écouter et voir le docteur Jean-François Delfrécy. Et oui, le docteur Jean-François Delfrécy, comme vous le savez, c'est le président du conseil scientifique nommé par Macron, ce merveilleux conseil scientifique qui nous a aidés à vaincre le Covid-19. Et oui, il fallait qu'ils soient là, les politiques, les scientifiques. Ils sont venus, veni, veni, vici, ils sont venus, ils ont vu, ils ont vaincu, enfin... On l'espère, hein, on l'espère. Mais alors Jean-François Delfrécy, alors il a expliqué hier au Journal du Dimanche qu'on a proposé le confinement, effectivement, le 14 mars, etc., juste après le premier tour des municipales. Non, c'est pas dérisoire, c'est pas une mascarade. Non, Agnès Buzyn, ce n'est pas une mascarade. Alors, qu'est-ce qu'il dit, Jean-François Delfrécy? Très intéressant. Ce n'était pas notre décision, car elle appartient au politique. Eh oui. Et le politique disait, écoutez, on a écouté le conseil scientifique et on a estimé, voilà, les politiques disent, c'est les scientifiques disent, c'est les politiques. Et il ajoute, Jean-François Delfrécy, le professeur, ce n'était pas une bonne décision, mais la moins mauvaise, étant donné les outils que nous avions. 3000 tests par jour quand les Allemands en avaient 50 000. Et rappelez-vous qu'ils nous disaient les masques, ça sert à rien, les tests, ça sert à rien, hein, pendant quand même très longtemps. Et il ajoute, et c'est bien l'autocritique, vous voyez, c'est pas seulement dans la révolution culturelle chinoise ou en Corée du Nord qu'il y a des autocritiques, il y a même chez nous avec le professeur Delfrécy. On était dans un changement de paradigme, on a fait des erreurs d'évaluation, une stratégie nouvelle pour nous. Eh bien, il s'agira de gérer le risque plus important chez les populations fragiles. Voilà, il faudra faire attention pour les écoles, etc. Mais quand même, cher professeur Delfrécy, voilà quand même ce que vous disiez. Donc hier, vous avez répété cela, pardon, je rappelle quand même, hier sur BFM TV, vous avez répété les choses. Écoutez ce que vous disiez, ce que disait le professeur Delfrécy hier. Écoutez.
Situation qui, au niveau viral, n'était pas contrôlée, et des tests diagnostiques pour faire le diagnostic du virus qui n'étaient pas en quantité suffisante. Donc la décision, entre guillemets, du politique, certes éclairée par les informations qu'on a pu lui donner, n'était pas la bonne décision. C'était la moins mauvaise des décisions, c'est probablement ce qu'on pouvait faire. Et c'est ce qui nous restait à faire début mars en cette situation. Donc c'est bien pour ça que dans les scénarios dont on va parler maintenant, il faut tout faire pour ne pas se retrouver dans la même position que début mars.
Eh bien écoutez, il faudra tout faire, et c'est bien, il faudra tout faire. Il faut toujours tout faire après, très très bien. Mais je rappelle que le 15 avril dernier, le même professeur Delfrécy, alors pour les plus de 65 ans, il avait un tout autre plan. Écoutez, le 15 avril, hein, c'est pas si loin que ça, voici ce qu'il disait, le cher professeur Delfrécy, ce qu'il préconisait, écoutez.
Les personnes qui sont les plus à risque de développer une forme grave, ça va rester. Hein. Ce sont les personnes les plus d'un certain âge, disons, dans lesquelles d'ailleurs je suis. Hein. C'est donc au-dessus de 65 ou de 70 ans. Ce sont les personnes qui ont des affections de longue durée, qui ont des multipathologies, insuffisance respiratoire, cardiaque, etc., enfin les ALD. Et puis ce sont des sujets jeunes, ayant une pathologie, mais aussi obèses, puisque vous savez que c'est un facteur de gravité pour les formes graves. Alors, tout ça, ça fait 18 millions de personnes. Donc, de toute façon, numérique ou pas numérique, nous avons, à la sortie du confinement, 18 millions de personnes qui sont à risque d'être contaminées et de continuer à développer une forme grave. Donc ces 18 millions de personnes, c'est pas un scoop, eh bien, on continuera le confinement.
Alors là, une question angoissante se pose à laquelle ne répond pas le professeur Delfrécy dans le Journal du Dimanche. 18 millions de personnes de plus de 65 ans risquent, Et pour ça, dit le professeur Delfrissi le 15 avril, il faut continuer le confinement. On sait que beaucoup de gens se sont rebellés et on sait que le gouvernement a abandonné cette mesure qui consistait à mettre en résidence surveillée, mais étroitement surveillée, les plus de 65 ans. Ce qui aurait quand même fait quelques, dans les rangs du gouvernement, des sénateurs et partout, hein, quelques tâches, quand même quelques abandons, quelques blancs. Eh bien ça, on n'en parle plus. Alors, professeur Delfrissi, moi j'ai quand même une question angoissante à vous poser, on est tous concernés. Alors, faut-il confiner ou pas, professeur Delfrissi, les plus de 65 ans? Vous dites qu'il y a 18 millions, on est sortis du confinement. Donc, qu'est-ce qu'on fait de ces 18 millions? Professeur Delfrissi, ne nous laissez pas dans l'angoisse, répondez-nous. Vous êtes le président du conseil scientifique. Vous avez dit d'ailleurs que le conseil scientifique doit arrêter en juillet, ce qui me paraît une sage décision. En attendant, Sud Radio... Les antennes de Sud Radio vous sont ouvertes, cher professeur. Dites-nous, on continue, les 18 millions de Français continuent à se confiner ou pas? Répondez-nous. En attendant, on ne vit plus. Merci.
Sud Radio, Berkov dans tous ses états. Les perles du jour.
Et j'entends siffler le train.
Pas de... C'est vrai, Richard Anthony, que c'est triste, un train qui siffle dans le noir. C'est tellement vrai, mais heureusement, il y a des gens qui sont dans le train et ils savent qu'ils n'en sortiront pas. Écoutez, l'un des politiques les plus lucides, les plus prévoyants que la France nous a donné, il est là, il sait que c'est le retour, il le dit. Écoutez Jean-Luc Mélenchon hier sur BFM TV.
Vous savez, moi je suis comme vous, hein, j'avais pas prévu le Covid-19, j'avais pas prévu la catastrophe qui s'avance là. Je me sentais, si vous voulez, plutôt dans le rôle d'un homme qui prépare la suite, fait en sorte que les choses se passent bien. En plus, j'ai pris des coups très rudes. Mon image a été abîmée par les violences que j'ai subies. Maintenant, tout le monde comprend que ça a compté, ces choses-là. Et maintenant, je me dis que je me sens une utilité nouvelle du fait de l'expérience que j'ai accumulée et du fait que les événements ne me font pas peur et
on sent que vous avez envie d'accélérer.
On pourrait s'appuyer sur moi, mais je suis pas fou. Ouais. Je dois être un des rares personnages de ce pays qui est monté dans un train dont il n'arrive plus à descendre. Alors ça, c'est un problème. Mais ma décision n'est pas prise.
Ah, c'est pas magnifique ça. Mais bien sûr, Jean-Luc Mélenchon, expérience, un des personnages de France, il a tout compris. Mais maintenant, j'ai compris pourquoi il y a eu le Covid-19. Pourquoi il y a ces manifestations communautaires? C'est enfin pour permettre à Jean-Luc Mélenchon, le seul sauveur que la France attend, de remonter dans le train. D'ailleurs, il ne le quittera pas, le train, il ne l'a pas quitté. Et évidemment, de réenvisager 2022, la grande revanche. Et oui, on n'a pas entendu le sifflet le train en 2017, mais on va entendre le chef de gare en 2022. Voilà, le Covid plus les manifestations, eh bien c'est tout bon pour Mélenchon. Eh bien nous, et c'est tout, c'est bien, eh bien nous attendons effectivement que le train Mélenchon, le TGV Mélenchon arrive à bon port. Il le dit lui-même et nous lui souhaitons bonne chance.
Et vous nous appelez à vitesse TGV, vous nous appelez au 0826 300 300. On a parlé de plein de sujets qui sont d'une importance majeure, c'est pour ça qu'on vous donne la parole à partir de 13h au 0826 300 300, je le rappelle, sur Sud Radio. Et on a parlé de ces manifestations contre les violences policières et aussi plus généralement contre le racisme. Mais ce n'est pas qu'en France, puisqu'on en a parlé, certains manifestants à Londres ont fait l'amalgame et ont saccagé la statue de Winston Churchill, l'accusant de raciste. Et puis dans le même temps, on a également parlé de Jean-François Delfrissi du conseil scientifique et on voulait savoir qu'avez-vous pensé du confinement? Était-ce la meilleure option au vu des circonstances, au vu du manque de tests notamment et de masques? Est-ce que vous avez peut-être moins confiance dans la parole des médecins depuis cette crise? Et puis vous faites peut-être partie de ces dites personnes à risque, comme l'explique Jean-François Delfrissi. Est-ce que vous êtes toujours vigilant? Auriez-vous accepté d'être assigné à résidence pour vous protéger? Vous nous appelez au 0826 300 300 à partir de 13h sur Sud Radio.
Sud Radio, Berkov dans tous ses états, le face-à-face.
Et tout de suite, nous sommes avec l'invité d'André Berkov, Patrick Artus, un grand économiste et membre du comité exécutif de la banque Natixis, et qui vient présenter son nouveau livre intitulé « 40 ans d'austérité salariale, comment en sortir ?» C'est aux éditions Odile Jacob.
Bonjour Patrick Artus.
Oui, bonjour.
Bonjour. Alors dites-moi, d'abord l'économiste que vous êtes évidemment va poser la première question avant de parler de votre livre qui est très intéressant parce que vous posez un certain nombre d'options et il faudra bien qu'à un moment donné les princes qui nous gouvernent choisissent avec lenteur ou pas et est-ce qu'on a encore le temps. Mais d'abord, quelles sont les perspectives au sortir, enfin, on l'espère en tout cas, au sortir de la pandémie pour la France en général, mais en particulier, pardon, et pour l'Europe en général. Mais là, tout le monde nous dit, la crise économique est là, elle arrive, la récession, le chômage, etc. Vu ce qui s'est passé, vu le confinement depuis 3 mois, vu l'arrêt, comment vous voyez effectivement la situation là, dans les mois qui viennent, Patrick Artus?
Tout dépend de la façon dont on va gérer des confinements, c'est-à-dire en fait, il y a un problème aujourd'hui, c'est que on avait prévu, il me semble, que les problèmes sanitaires allaient rester graves encore plusieurs mois. Donc le gouvernement, je pense, hein, était sur un scénario où encore pendant tout l'été, et peut-être même à la rentrée, il y avait encore un problème sanitaire important qui nécessitait beaucoup de prudence, de ne pas réouvrir facilement tous les chantiers, toutes les entreprises, de maintenir des règles sanitaires nouvelles extrêmement strictes. Et on sent, y compris d'ailleurs dans les commentaires du professeur Delfraissy ce week-end, qu'en réalité, la maladie a l'air de s'améliorer plus vite que ce qui était dans les scénarios. Donc, si on arrive à normaliser l'économie plus vite, on va quand même gagner beaucoup. Alors, juste pour vous donner un chiffre, la dernière prévision de Gérard Darmanin, hein, c'est que le PIB cette année va reculer de 11% en France.
Oui, c'était ça.
On aurait dû avoir plus 1 et on aurait moins 11. Mais l'INSEE qui fait 12 points de perdu, 12 points de perdu, c'est 10 ans de croissance. Hein. Mais l'INSEE nous dit, si on arrivait à normaliser l'économie en septembre, on ne perdrait que 8 points. Alors c'est horrible, mais c'est 3 points de mieux, quoi, je veux dire. Hein. Et donc peut-être qu'il faut se poser la question de savoir si on n'est pas trop prudent en ce moment hein, et si on ne pourrait pas aller un peu plus vite.
D'accord.
Alors, on en parle pour les écoles, mais c'est vrai aussi pour les entreprises, hein, les normes sanitaires sur les chantiers de bâtiments, les normes sanitaires dans la distribution. Donc, plus on peut gagner du temps sur la normalisation, moins la facture sera lourde. Hein. Et donc, faut peut-être réajuster les règles.
Mais, professeur Artus, la question que je voudrais vous poser, c'est que, est-ce que, bon, même à 8%, est-ce que le choc ne sera pas quand même très fort, sans faire des prophètes d'Apocalypse, sans faire les Cassandres?
Mais alors, on a fait quelque chose de très particulier, c'est qu'on a fait en même temps un énorme déficit budgétaire. Et donc, cette année, on attend aussi plus de 11 points du PIB de déficit budgétaire. Ce qui fait, en réalité, que l'État injecte des revenus dans l'économie. Alors, déficit budgétaire, c'est le financement du chômage partiel, c'est des aides aux entreprises, c'est des aides au secteur en difficulté, c'est des baisses d'impôts de tout type, on a des plans tous les jours sur un nouveau secteur d'activité. On a même du mal à suivre tellement il y en a. Et ceci pour un montant global qui est pas loin d'être le montant de la perte de PIB. Ce qui veut dire que... Alors, bien sûr, c'est très hétérogène. Il y a des populations qui sont en très grande difficulté. Hein, il y a des artisans qui ont perdu tout leur chiffre d'affaires. Il y a des jeunes qui n'arrivent pas à rentrer sur le marché du travail. Il y a des intérimaires qui ont perdu toute mission d'intérim. Il y a des intermittents du spectacle, etc. Mais en moyenne, l'État a rendu aux Français à peu près ce qu'ils perdaient. Alors, il y a pire, puisqu'aux États-Unis, l'État américain a rendu tellement aux Américains de revenus par le déficit public que les revenus des Américains sont plus élevés que s'il n'y avait pas eu la crise. C'est quand même assez paradoxal.
Ça, c'est un paradoxe intéressant, oui.
Voilà. Donc, le point est de dire, s'il n'y avait qu'un problème de revenus, on l'a réglé par le déficit public. Le problème, c'est qu'on a plus qu'un problème de revenus. Il y a des problèmes d'offres. Alors, le premier problème d'offre, c'est les réglementations sanitaires. Quand vous devez espacer les salariés sur un chantier de bâtiment, ne faire venir qu'un corps d'État à la fois, vous perdez de la productivité. Et alors ça, peut-être qu'il faut réfléchir à l'alléger, hein, parce que s'il est vraiment l'épidémie disparaît. Et puis, le deuxième problème d'offre, c'est qu'il y a des comportements qui ont changé, qui fait qu'il y a des secteurs qui sont durablement en difficulté. On va peut-être acheter durablement moins de voitures, on va peut-être aller durablement moins dans les magasins et consommer davantage sur Internet. On va peut-être moins faire de tourisme de masse très loin sur la planète, et donc on va moins prendre l'avion. Et donc, il y a des secteurs qui vont être durablement difficultés, alors qu'il y a d'autres secteurs qui vont très bien. Par exemple, tout ce qui est services informatiques, vous le savez, vente en ligne, etc. Et alors ça, c'est très compliqué à gérer, parce que, vous voyez, si Renault perd des emplois, il faut que les salariés... Et puis si, je sais pas quoi, les sociétés de vente en ligne créent des tonnes d'emplois, c'est pas si simple
que ça. Oui, est-ce que ça équilibre? Parce qu'il y a la reconversion qui est difficile.
Ça équilibre comptablement. Ouais. C'est toujours extrêmement compliqué. Il faut requalifier.
Mais pas en matière humaine. Ouais.
Oui, et donc on sait que pendant une période de temps, il y a des coûts d'ajustement qui sont énormes. Quoi. Un salarié de Renault, c'est pas directement un salarié d'une boîte de vente en ligne. Quoi. D'autant plus que, comme vous le savez, en France, on a un énorme problème qui est l'énorme rigidité qu'apporte le système immobilier. C'est très difficile de vendre sa maison et d'aller travailler ailleurs. Quoi. Et donc, on a des obstacles à la mobilité. Voilà. Donc, moi, je crains que même si l'épidémie s'en va plus vite que ce qu'on imaginait, et si donc on peut alléger les normes sanitaires, il reste un gros problème sectoriel, hein, avec des secteurs qui vont rester en difficulté. Et que donc,
on va pas
retrouver une économie totalement normale, même si la maladie
disparaissait par miracle. On va en parler tout de suite, Patrick Artus, avec vous. C'est passionnant. Après une petite pause, à tout de suite.
Sud Radio, Berkov dans tous ses états. Le face-à-face.
Et nous continuons notre conversation avec Patrick Artus pour ce livre passionnant, 40 ans d'austérité salariale, comment en sortir? Je rappelle que Patrick Artus est professeur associé à l'École d'économie de Paris et chef économiste de Natixis. Patrick Artus, justement, on arrive au cœur de votre livre, l'austérité salariale. Et j'éteins un peu la palette, parce que c'est vrai que quelque part, on part, hein, effectivement, vous expliquez très bien pourquoi on a choisi, et on va en parler, les bas salaires. Mais c'est vrai que quand on arrive à des moments quand même où on entend des témoignages d'agriculteurs, ou dans les villages ou ailleurs, des gens qui vivent avec 300 euros par mois, des gens qui vivent avec 800 euros par mois, je fais exprès de prendre, mais ils sont pas exceptionnels, ils sont quand même assez nombreux dans cette France avec des disparités quand même assez hallucinantes de salaires. Et vous dites, vous, que c'est une situation qui dure depuis longtemps, Patrick Artus.
Oui, alors il faut séparer le cas français du cas général. Si on était aux États-Unis, si on faisait un débat sur la politique économique des États-Unis et l'élection américaine, on n'aurait pas énormément d'état d'âme. Aux États-Unis, les 40% d'Américains en bas de l'échelle des revenus ont le même pouvoir d'achat aujourd'hui qu'en 1990. Ils n'ont eu aucune hausse de pouvoir d'achat en 30 ans, alors que le revenu global des États-Unis a doublé sur cette période. Donc il y a une anomalie absolue qui est qu'aux États-Unis, les salaires n'augmentent pas. Et techniquement, ça vient de ce que la part des salaires dans le revenu national a diminué, hein, et que la part des profits a augmenté. On n'a pas ça en France. On n'a pas ça en France, donc je suis assez d'accord avec vous. Il y a beaucoup de tout petits revenus en France, hein, il n'y a aucun sens de le nier. Mais ça ne vient pas de la même anomalie qu'aux États-Unis ou qu'au Japon, par exemple. Hein. Au Japon, les salaires n'ont pas bougé en 30 ans. Hein. Donc en France, les salaires ont suivi à peu près les gains de productivité. Quoi. La productivité a été distribuée aux salariés. Donc on n'a pas une anomalie dans la formation des salaires en France. Hein. Et ça doit changer la façon dont on réfléchit aux politiques économiques. C'est-à-dire, Joe Biden propose de doubler le salaire minimum, hein, s'il est élu président des États-Unis. Et ça a du sens aux États-Unis, hein, parce que le salaire minimum est incroyablement bas, il n'a pas bougé depuis des années. Mais si vous doublez le salaire minimum en France, vous allez détruire des millions d'emplois. Hein, les PME pourront plus employer les salariés.
Donc vous devez. C'est une théorie des dominos, oui.
Ah oui, ben c'est. Ben, oui, enfin, vous pouvez pas. D'un certain point de vue, ça rend notre situation plus compliquée que celle des autres pays. Parce que je dis États-Unis, mais c'est le Japon, c'est le Royaume-Uni, c'est l'Espagne, etc. Dans tous ces pays, ça aurait beaucoup de sens de monter les bas salaires. En France, il ne faut pas faire ça. Il faut utiliser. Donc si on veut s'occuper des bas revenus, il faut utiliser des technologies plus compliquées. Et moi, je plaide pour un espèce de revenu universel sur les populations les plus fragiles, par exemple, hein, qui couvrirait.
Ah, d'accord. Vous seriez pour un revenu universel, oui, pour les plus défavorisés,
disons. Parce que dans la version radicale du revenu universel, on donne 500 ou 600 euros par mois à tous les Français depuis leur naissance jusqu'à leur mort. Ça coûte 40% du PIB, donc on n'y arrivera jamais. Mais par contre, on a un filet de sécurité qui a des trous. Les trous, c'est effectivement les agriculteurs, les intérimaires, les jeunes qui ont du mal à rentrer sur le marché du travail, les intermittents, les personnes
les artisans,
avec des CDD très courts. Et donc, il faudrait donner un filet de sécurité qui couvre tout le monde et pas seulement les salariés normaux, quoi, comme c'est le cas aujourd'hui. Mais par contre, monter les bas salaires, vous voyez, alors, le dire est démagogique parce que si vous montez le SMIC, vous allez, certes, les personnes qui garderont leur emploi gagneront leur vie, mais vous allez détruire des quantités d'emplois qui ne se rentabilisent qu'avec des bas salaires, malheureusement. Donc, je crois qu'il faut comprendre que notre cas est différent. Alors, on a fait quelque chose de bien, quand même. On a fait quelque chose qui s'appelle la prime d'activité, hein, qui est un complément de salaire et qui peut même être important sur les bas salaires, mais ça ne couvre effectivement que des personnes qui ont un emploi, quoi, je dirais. Donc il faut sans doute compléter ça par quelque chose, un revenu qui soit plus général. Je trouve assez intéressant le débat qui est parti, par exemple, sur les jeunes, en disant il y a beaucoup de jeunes aujourd'hui qui vont sans doute devoir prolonger leur formation parce qu'ils vont avoir du mal à rentrer sur le marché du travail après cette crise. On pourrait leur donner un revenu pendant qu'ils prolongent cette formation, par exemple. Hein, vous voyez, ça a du sens, à mon avis, comme débat. Hein.
Mais est-ce que juste un mot là-dessus, un incident, Patrick Artus, est-ce que vous croyez qu'il y aura une explosion, je ne sais pas, en tout cas une forte augmentation du chômage, parce qu'on le prévoit, on pense qu'on va revenir à 10% alors qu'on était étendu à 8% de la population active, et là on prévoit 10% et plus.
Ben, vous savez, André Berkoff, si on arrive à limiter la hausse du chômage à 2 points, c'est-à-dire de 8 à 10, alors qu'on va peut-être faire moins 11 de PIB au lieu de plus 1, ça serait quand même pas mal. Hein. Donc honnêtement, Muriel Pénicaud a dit il y a quelques jours qu'elle pensait que le chômage irait à 10%. Si on arrive à tenir ça, et vous savez, cette montée du chômage, elle n'est pas due à des licenciements. Hein. Elle est essentiellement due à la difficulté de trouver un emploi. C'est les recrutements qui ont disparu. Hein.
Il y a les petites entreprises qui vont fermer. Il y a beaucoup de, vous l'avez dit vous-même, et on le sait.
Mais peut-être pas tant que ça, parce que d'abord, ça dépend. Si on arrive à lever les contraintes sanitaires plus vite que ce qu'on pensait, ça va aider. Et puis, à nouveau, il y a quand même. Vous voyez, l'État aujourd'hui, il fait plombier, quoi. Chaque fois qu'il voit une fuite, il bouche la fuite. Et donc, on lui a dit qu'il y avait un problème dans le tourisme, il s'occupe du tourisme. On lui a dit qu'il y avait un problème dans la distribution, il s'occupe de la distribution. Dans l'automobile, il s'occupe de l'automobile. Dans le textile, donc il y a quand même un État pompier qui, grâce d'ailleurs à la politique monétaire de la BCE, hein, il faut le dire, a quasiment en ce moment des moyens illimités. Donc non, je suis pas sûr qu'il y ait une telle hausse du chômage. Je pense surtout qu'on crée une inégalité nouvelle. Hein. C'est entre ceux qui sont dans des entreprises qui sont relativement solides et qui vont garder leur emploi et ceux qui n'arrivent pas aujourd'hui à rentrer. Quoi. Donc c'est les jeunes en particulier.
L'inégalité, c'est l'entrée dans le marché du travail ou pas, quoi. En ce moment, c'est ça.
Et alors, ceux qui doivent rentrer, c'est ceux qui avaient des contrats courts avant la crise, tous les saisonniers, les intermittents, etc. C'est les jeunes. Et évidemment, c'est une crise qui est extrêmement dure pour eux, qui n'est pas forcément horrible pour ceux qui étaient déjà dans le marché du travail, quoi. Donc, ça crée une inégalité d'un type assez nouveau.
Ouais. Et cette inégalité risque effectivement de perdurer. On va en parler de toute façon et du chômage et du rapport chômage et travail. Et beaucoup de questions à vous poser, Patrick Artus, avec ça. On se retrouve après les informations et avec les auditeurs de Sud Radio qui ont sûrement beaucoup, beaucoup de questions à vous poser. À tout à l'heure. Merci.
Et oui, vous nous appelez au 0826 300 300, vous restez avec nous, Patrick Artus, vous avez parlé de 40 ans d'austérité salariale, comment en sortir? Vous avez peut-être été durement touché par la crise du coronavirus, ou au contraire, vous considérez qu'il faut encore garder des mesures sanitaires sûres. Donc vous nous appelez au 0826 300 300, c'est juste après les informations.
Radio. Les Français parlent aux Français. Les carottes sont cuites. Les carottes sont cuites.
Sud Radio, Berkoff dans tous ses états.
Oui, on retrouve André Berkoff, on retrouve Patrick Artus, effectivement l'économiste avec 40 ans d'austérité salariale, on va en parler. Et puis surtout, on vous retrouve à vous, auditeurs de Sud Radio, qui êtes de plus en plus nombreux à nous appeler et vraiment à s'exprimer de façon très, très, très parlante, dans tous les sens du terme, et heureusement. C'est à vous, Augustin.
Oui, et tout de suite, nous sommes avec Isabelle. Nous sommes avec Isabelle qui nous appelle de Neuilly. Bonjour Isabelle.
Bonjour. Oui, bonjour, bonjour André Berkoff. Je voudrais réagir à propos de la manifestation de samedi, place de la Concorde et rue Royale.
Oui.
J'ai remarqué, moi, devant mon téléviseur, que c'était essentiellement une manifestation noire. On n'a pas vu d'arabo-musulmans, on n'a pas vu de foulards islamiques qui sont en général toujours prêts à se montrer. Et malgré la violence des propos tout à fait intolérables tenus contre la France, comme vous l'avez souligné tout à l'heure, il n'y a pas eu de casse sur la rue Royale, ni sur le faubourg Saint-Honoré. Bon, peut-être une relation de cause à effet, j'en sais pas. Et alors, on peut en déduire que, me semble-t-il, les arabo-musulmans ne se sentent pas solidaires des Noirs. C'est peut-être du racisme. N'oublions pas que dans certains pays arabo-musulmans, l'esclavage est toujours de rigueur. Alors qu'ils se déclarent en permanence victimes du racisme. Mais en réalité, je crois qu'ils ne revendiquent pas une appartenance à une race, mais plutôt, et c'est la vérité, une appartenance à une culture, à une religion, à une politique, et à... oui, une culture, une religion, une politique, voilà.
Oui. On est d'accord, oui. Enfin, votre propre style, vous vouliez marquer la différence, c'est ça, Isabelle?
Oui, c'est-à-dire, moi, ça m'a surpris parce que c'était une manifestation contre le racisme. Les arabo-musulmans se disent victimes du racisme et, me semble-t-il, j'ai peut-être pas bien vu, mais ils n'étaient pas là.
Alors, je vais vous dire, d'abord, c'est très difficile de tirer des conclusions générales d'une ou de deux manifestations. Encore une fois, vous savez, moi, les généralisations, je m'en méfie toujours. Maintenant qu'il y ait des différences, c'est évident. Il y a eu, d'ailleurs, sur les réseaux sociaux, deux. Je n'ai pas vu plus, donc c'est pour ça que je dis qu'il ne faut jamais des généralisations totales disant les arabo-musulmans, les noirs, etc. C'est heureusement beaucoup plus différencié que cela. Mais il y a eu effectivement quelque chose qui m'avait frappé. C'est sur les réseaux sociaux, deux participants à la manifestation, en tout cas de samedi, disaient il ne faut pas oublier que le Maghreb, c'est à nous, l'Afrique, elle est à nous, et la prochaine étape, ce sera le Maghreb. Ce qui va un tout petit dans votre sens, mais encore une fois, n'en tirons pas, ce serait toujours assez ridicule, je dirais, de tirer une théorie, une constatation générale de quelques cas. Mais en tout cas, qu'il y ait un problème là-dessus, qu'il y ait des différences, ça me paraît évident. Merci Isabelle. Autre auditeur, Augustin.
Oui, nous sommes avec Dylan qui nous appelle de Seine-et-Marne et plus précisément de Chelles. Bonjour Dylan.
Oui, bonjour. Donc, bon, pour réagir à ce qui vient d'être dit, bon, on est toujours le raciste de quelqu'un d'autre. Bon, c'est pas, à mon avis, c'est pas ce que les Français se préoccupent le plus. Les gens, ils veulent un emploi, de l'argent, de l'air pur, si possible, à respirer. Je pense qu'à mon avis, on est en train de parler d'un truc que les gens s'en foutent et qui va lasser très rapidement les gens. Et on va vite reparler de l'économie qui est bien plus catastrophique.
Alors parlons-en.
Vous avez un économiste à côté de vous. Justement, j'aimerais bien entendre sa réaction. J'ai un plan en trois étapes pour changer de presque de pays ou d'économie en tout cas. Alors, je ne sais pas si vous connaissez un petit peu le modèle de l'économie bleue avec Günther Pauli.
J'ai entendu parler, mais Patrick Artus doit le connaître sûrement mieux que moi. Mais essayez de résumer, parce que vous savez, on est à la radio. Dylan, assez rapidement, votre
d'accord.
Plan.
Alors, il vous en parlera, comme ça me tient un truc de moi à dire. Alors, moi, j'ai un plan. On parle, alors, baisser le RSA de 200 euros. Moi, j'aime bien Mélenchon, je suis d'accord la plupart du temps avec lui. Mais sur le mot solidarité, je ne suis pas tellement d'accord. Pour moi, c'est d'abord, apprends à un homme à pêcher, ne lui donne pas un poisson. Bon. Mais alors, baissez le RSA de 200 euros. Avec cet argent, faites une cagnotte qui va subventionner l'agriculture de la France. On va embaucher 15 millions de permaculteurs. Ce sera de la permaculture.
15 millions.
Oui, donc facteur 10 en productivité à rapport à la biomasse, à rapport à ce qu'on est capable de produire aujourd'hui, avec donc 15 millions de logements en terre paille-champ de fonction, qui permettrait à des gens d'accéder à des fonciers. Donc, un loyer. Enfin, ce ne serait pas très cher de payer des gens s'ils ont un logement gratuit. Vous voyez ? Donc, qui revient à gratuit aussi à construire. Bref. Donc, plein de gens seraient contents de travailler dans ce modèle-là. La permaculture, ce n'est pas un truc mécanisé de ouf. C'est très facile à faire. Et pourquoi pas donner de la valeur ajoutée à cette entreprise avec un crédit immobilier. Ils peuvent investir dans des machineries et faire de la transformation agroalimentaire pour une conservation des denrées alimentaires de haute qualité. Et on sait que les produits lyophilisés se vendent très bien. Bon, et se conservent jusqu'à 25 ans. Deuxième chose, pour ça c'était pour l'agriculture, pour la santé.
Oui.
Moi je peux vous sauver 25 millions de vies dès demain. On interdit demain tous les bureaux de tabac. On met l'armée qui protège les bureaux de tabac parce que les drogués vont vouloir se fournir. Bon.
Oui. Vous savez ce que ça rapporte à l'État? Attendez, Dylan. Vous savez ce que ça rapporte à l'État, les bureaux de tabac?
Oui. Non, mais attendez. Vous savez ce que ça rapporte, quelqu'un qui est en bonne santé et qui va travailler 10 ans de plus parce qu'il est en bonne santé?
Oui.
Vous savez combien ça rapporte?
Oui, il faut faire le calcul. L'économie positive,
elle est beaucoup plus rentable que l'économie négative, monsieur. C'est vrai qu'un revolver, ça se vend bien. Ça crée de l'emploi.
Oui.
Mais vous savez, vous pouvez faire plus de business avec quelqu'un qui est en vie que quelqu'un qui est mort.
Ça c'est aussi, il faut y penser. Alors, allons-y. Donc, interdiction des bureaux de tabac. Continuez.
Alors, d'accord. Donc, interdiction des... Enfin, petit à petit. Moi, je dis ça, c'est dans les grandes lignes. C'est l'objectif final.
Non, mais je comprends, bien sûr.
Alors,
bien
OK. On va changer de médecine. Il y aura un budget qui va être allégé pour la sécurité sociale puisqu'il y aura moins de gens qui sont en problème de santé. On va subventionner donc une agriculture qui est meilleure, on aura moins de pollution. Maintenant, interdisons toutes les bouteilles en plastique. Des millions de tonnes de déchets plastiques que vous allez éviter. À la place, on subventionne l'eau du robinet. On subventionne des filtres pour l'eau du robinet pour qu'elle soit meilleure encore que celle que vous pouvez acheter, qui est 10 fois plus chère, rappelons-le. Et qui est plein de perturbateurs endocriniens. Rappelons-le aussi, parce que les gens n'aiment pas le chlore, ils préfèrent les perturbateurs endocriniens. Bon. Donc, on fait moins de déchets, donc il y a moins de voiries, etc. etc. Ouais. Et pour la suite, vous demandez à Gunther Pauli, il va vous dire la suite des événements, comment on peut être le pays le plus vertueux et le plus rentable.
Le plus vertueux et en meilleure santé, c'est ça aussi.
Et en meilleure santé.
Écoutez, c'est intéressant.
Et pour le confinement, moi je suis contre le confinement. Là où que je rejoins, je suis un petit peu contre le productivisme à outrance, comme Tesla. Mmh. Mais quelque part, le confinement, est-ce que vous voyez dans la nature un animal qui va se dire « Tiens, moi je travaille pas, on va me nourrir ?» Non, ça n'existe pas. Donc solidarité, oui. Mais solidarité avec Renault et tout, ça c'est même pas de la solidarité, c'est plutôt de la corruption.
C'est autre chose. C'est autre chose, ça. Non, mais il faut être cohérent. Attendez, moi vous avez très bien exprimé ce que vous. J'aimerais bien avoir la réaction de Patrick Artus. Bon, c'est un plan effectivement tabac, plastique, effectivement baisser le RSA, baisser le RSA, etc. Patrick Artus, qu'en pensez-vous?
Moi, je vais répondre comme économiste un peu plus généraliste. Baisser le RSA, ça me paraît une très mauvaise idée. Enfin, je veux dire, on a besoin d'une protection sociale minimale. Hein. On a besoin de donner aux gens un revenu minimal. Il y a des gens qui sont en difficulté. Il y a des gens qui ont besoin de se requalifier. Le besoin de requalification, on l'a dit tout à l'heure, après cette crise, il va être considérable. Donc, il va falloir porter un certain nombre de personnes pour qu'ils changent de métier. Hein. On ne peut pas les abandonner sans revenus. Donc, ce n'est pas particulièrement le RSA. Je pense qu'on a besoin d'une espèce de filet de sécurité, comme on dit, en particulier dans des périodes comme ça où il va y avoir des mutations très importantes. Après, je pense qu'il y a deux choses qui sont intéressantes à discuter. Je pense qu'effectivement, on sait qu'en France, un des problèmes de notre système de santé, c'est qu'on ne fait pas assez de prévention. Et donc, si on dépensait beaucoup plus en prévention, on aurait beaucoup moins à dépenser après en soins. Dans les pays nordiques, par exemple, il y a un système de prévention qui est beaucoup plus développé. Donc la prévention, c'est un vrai sujet. Et après, on touche une autre question qui est celle, finalement, des relocalisations. C'est-à-dire, on dit, voilà, il y a cette proposition, on dit, dans une économie idéale, on devrait relocaliser en France ou en Europe beaucoup de productions qui aujourd'hui sont faites ailleurs. Et là, vous savez qu'on rentre dans quelque chose qui est extrêmement compliqué parce que vous avez le conflit producteur-consommateur. On a délocalisé essentiellement parce que on a gagné en coût. Le coût de production dans les pays émergents aujourd'hui, c'est la moitié du coût de production en France. Donc tout ce qu'on relocalise va être deux fois plus cher. Et donc c'est cette espèce de schizophrénie du citoyen dans sa poche de consommateur. Il aime bien ce qui est produit dans les pays émergents parce que c'est deux fois moins cher. Et dans sa poche de salarié, il préfère la relocalisation parce que ça fait des emplois. En fait, il va falloir être capable de concilier ça. Et pour concilier ça, la seule solution, c'est on peut pas relocaliser le bas de gamme. Ça serait en fait une énorme erreur stratégique de relocaliser des industries bas de gamme. Vous voyez ce qui se passe pour les malheureux qui ont décidé qu'ils allaient faire des masques. Hein, où on met des dames devant une machine à coudre et on s'aperçoit finalement que tout le monde s'approvisionne en Chine et au Vietnam. Donc il faut relocaliser le haut de gamme. C'est la seule façon de
créer des emplois. Oui, mais les médicaments, par exemple.
Oui, mais André Berkoff aussi, ici, on a un message qui est assez différent de la réalité. On parle en particulier de ce qu'on appelle les principes actifs. C'est la chimie qui est derrière les médicaments. La France a un excédent commercial pour les principes actifs qui n'arrête pas d'augmenter et un excédent commercial pour les principes actifs vis-à-vis de la Chine. Alors qu'on nous explique tous les jours qu'on importe tout. C'est pas vrai du tout. On a délocalisé en Chine des médicaments extrêmement basiques. Le paracétamol est un bon exemple. Et on fabrique des médicaments compliqués, haut de gamme, beaucoup plus compliqués à faire, beaucoup plus chers et beaucoup plus rémunérateurs pour nos entreprises. En fait, on fait ce qu'il faut. La question, c'est est-ce qu'il faut fabriquer en France le paracétamol? Peut-être qu'il suffirait d'avoir des stocks, quoi, je veux dire. Est-ce que c'est la peine de le faire?
Oui, ce serait peut-être pas mal, ça, s'il y a une pandémie.
Donc on a cette... Moi, je crois que les relocalisations, il faut surtout pas se forcer à relocaliser des industries qui soient peu sophistiquées. On va créer des emplois basiques, mal payés, on va payer plus cher les produits. Et donc, donc je pense que votre auditeur, finalement, il posait cette question-là. Est-ce qu'il y a des choses qu'on pourrait refaire mieux?
Surtout en l'agriculture et autres.
On peut penser au haut de gamme. Le local, le bio, on l'a vu dans cette crise, c'est des produits qui sont relativement chers. N'utilisez pas la main-d'œuvre à bon marché des pays de l'Est ou d'Afrique du Nord. Mais du coup, il va falloir que les consommateurs se disent que s'ils tiennent absolument un certain nombre de relocalisations, il va aussi falloir qu'ils sacrifient une partie de leur
pouvoir
d'achat. Oui,
en payer le prix. Merci. Ouais. On est d'accord. On va en continuer à en parler. C'est passionnant. Merci, Dylan. Merci à vous tous. Et on continue. On se retrouve après ceci. À tout de suite.
Oui. On se retrouve dans quelques instants, vous nous appelez au 0826 300 300, vous pouvez parler de tous les sujets qu'on a abordés, notamment les manifestations anti-police et anti-racisme en France, mais également l'économie à Patrick Artus. Vous nous appelez donc au 0826 300 300, vous pouvez même programmer votre élection pour 2022 comme Dylan l'a fait de Seine-et-Marne. A tout de suite.
Ici Sud Radio. Les Français parlent aux Français. Les carottes sont cuites. Les carottes sont cuites.
Sud Radio, Berkoff dans tous ses états.
Et nous continuons tous dans tous nos états à parler effectivement économie, à parler santé, à parler tout cela avec vous, auditeurs de Sud Radio, et avec Patrick Artus, 40 ans d'austérité salariale, comment en sortir? Patrick Artus, quand même, moi j'ai une question à vous poser. Vous dites, oui, t'as des relocalisations, il faut que les consommateurs sachent. Mais attendez, un gouvernement aussi, c'est très joli, mais il est fait pour prévoir. Les pandémies, on l'avait oublié. En 2013, la ministre de la Santé de l'époque, ça y est, son nom m'échappe, c'est pas par hasard, mais enfin, peu importe. Bon. quand on ne passe pas au masque à l'époque, quand il n'y en a plus, quand on ne passe pas au... Est-ce que ce n'est pas aussi de prévoir l'imprévisible? Est-ce que ce n'est... Faire des modélisations sur des choses qui existent. Parce que vous dites, voilà, mais quand on arrivait là, et on a vu que pendant 2 mois, soyons clairs, y compris chez les soignants, ils n'avaient pas de masque, ils n'avaient pratiquement pas de gel, ils n'avaient pas les tests, n'en parlons pas. Est-ce qu'il n'y a pas, et je ne parle pas que de la France, hein, bien sûr, est-ce qu'il n'y a pas une question aussi, pardon, de prévision, de prévisibilité? Sinon, on laisse faire et puis après on dit « Ah oui, c'est vrai, c'est une situation exceptionnelle. » Et puis on verra comment ça se passe. Patrick Artus, il y a quand même ça. On s'est retrouvé fort dépourvu quand la bise du Covid fut venue, comme dit l'autre.
Oui, ça pose une vraie question qui est sur l'organisation de l'État. Dans les entreprises,
oui.
il y a des gens dont le travail est de réfléchir aux risques. Et on fait ce qu'on appelle de la cartographie des risques. Hein. C'est un nom pompeux pour expliquer qu'on essaie à l'avance d'identifier tous les risques qui pourraient affecter l'entreprise. Et assez curieusement,
les imprévisibles.
Surtout les imprévisibles. C'est d'ailleurs une obligation légale. Hein. Les comités d'audit des entreprises doivent montrer qu'ils ont réfléchi à la cartographie des risques et on s'occupe des risques environnementaux, sociaux, de grandes crises, de perte de ses clients, d'arrivée d'un concurrent destructeur, enfin vous voyez ce genre de choses. Et donc il y a une réflexion permanente sur qu'est-ce qui pourrait nous arriver de dangereux. Aujourd'hui, il y a des choses qui se développent beaucoup plus récemment, la cybersécurité qui est devenue un véritable enjeu dans les entreprises par exemple.
Bien sûr.
Et l'État fait pas ça, visiblement. C'est-à-dire ce que l'État exige par la loi des entreprises, il le fait pas, parce qu'il n'y a pas d'instance, d'endroit dans l'État où peut-être, devrait y avoir en tout cas, un endroit où on se pose des questions, on fait cette analyse des risques. Quoi. Est-ce qu'honnêtement, dans une entreprise, on passe un temps fou à faire ça, quoi, je veux dire, à se dire, mais qu'est-ce qui peut m'arriver? Qu'est-ce qui peut m'arriver? Réfléchissons à tout ce qui pourrait être destructeur pour l'entreprise et qui pourrait nous arriver. Et l'État ne fait pas cet effort. Alors, il y a des endroits dans l'État où il y a des approches stratégiques. Il y a un endroit qui s'appelle France Stratégie, par exemple, où on se pose effectivement souvent de bonnes questions. Hein. Mais il n'y a pas cette approche systématique, il n'y a pas cette culture du risque quoi, qu'on a dans les entreprises maintenant.
Ce qui est, pardon de vous le dire, assez hallucinant. Parce que si quelqu'un devrait être encore plus, bien sûr les entreprises c'est important, mais encore plus l'entreprise qui s'occupe du collectif national, c'est bien l'État.
Oui, mais vous voyez, mais assez souvent l'État demande aux entreprises de faire des choses qu'il ne fait pas. Donc là, il y a cet exemple-là. Vous savez que l'État est un très mauvais employeur, par exemple. Hein. Regardez ce qui se passe avec les CDD répétés à l'infini, etc., dans certaines administrations ou dans certaines entreprises publiques. Donc l'État a tendance à demander aux entreprises d'être vertueux, n'étant pas vertueux, lui, dans les mêmes endroits. Donc là, il y a sans doute une réflexion à mener. Il faudrait que l'État fasse de la cartographie des risques, quoi, comme nous le faisons dans les entreprises.
Ça me paraît extrêmement important, c'est vrai. Merci de cet éclaircissement, merci d'avoir bien d'éclairci cela. Un autre auditeur où on attend peut-être la pause, Augustin.
Oui, non. On a Karine de Levallois-Perret qui veut poser une question justement à notre invité Patrick Artus.
Bonjour Karine. Prend Karine.
Oui, bonjour André, bonjour Monsieur.
Bonjour Karine.
Alors en fait j'avais pas mal de questions parce que je trouve ça passionnant au niveau du débat sur l'économie. Mais premièrement, je voudrais comprendre pourquoi il n'y a pas plus d'harmonisation fiscale dans cette Europe. Je voulais avoir le point de vue de M. Arthur sur l'Europe et son rôle justement, parce que elle impose des contraintes budgétaires et il y a un dumping social à l'intérieur de l'Europe qui se fait. Enfin, moi j'ai un peu lu le livre de Christian Saint-Étienne sur le sujet et ça fait quand même énormément de mal aux entreprises. On a parlé justement des problèmes du budget de la santé. Mais comme l'Europe impose des contraintes très strictes budgétaires aux différents pays, le pays a essayé de faire des économies à tort justement sur pas mal de choses, y compris la santé. Donc moi je voudrais avoir son point de vue là-dessus. Et comment ça se fait que depuis plus de 20 ans que l'Europe est quand même installée avec l'euro, il n'y a pas plus d'harmonisation fiscale? Deuxièmement, je voudrais qu'il essaye de nous expliquer peut-être en termes le collatéral qu'il y a en face de toutes ces centaines de milliards. Parce que justement après cette rigueur budgétaire imposée tout d'un coup, on débloque des centaines de milliards parce que alors et on remercie la BCE, mais c'est quand même l'Europe aussi qui nous a mis dans ce pétrin pour commencer. Maintenant, on la remercie de débloquer des centaines de milliards. Quel est le collatéral en face? Je veux dire, c'est bien d'émettre, c'est la planche à billets virtuelle qui fonctionne, mais qu'est-ce qu'il y a en face? Je veux dire, nous, quand on emprunte entre guillemets de l'argent à une banque, on nous demande un actif en collatéral, en garantie. Alors, c'est quoi la garantie? C'est des dettes, c'est la confiance dans les États, c'est des dettes pour les futures générations, c'est quoi? Et justement, en maintenant les teints, en diffusant tout cet argent, ça permet, on essaye aussi de maintenir les taux d'intérêt aussi bas que possible, n'est-ce pas? Et donc ça aussi, ça met la pression sur les salaires, et les salaires, il faut surtout pas qu'ils bougent parce que sinon ça créerait de l'inflation. Donc on garde les gens dans ce piège. Troisième question, je voudrais, excusez-moi, je voudrais savoir si quelqu'un arrive à penser à un modèle économique dans un monde qui a des ressources finies, parce que c'est quand même ça aussi le problème, et vous parliez de la schizophrénie.
Alors écoutez, on va déjà poser les deux première question, parce que non, je vous dis, parce que sinon on en aura pour deux heures, mais vous avez raison de poser la question. Hein. Mais avant les ressources finies, vous avez posé deux questions, et ce serait bien que Patrick Artus y réponde.
Je vais répondre même aux trois. Alors je pense que l'Europe est en train de changer. Par exemple, la Commission européenne vient de publier il y a deux jours un projet de salaire minimum européen. Donc, il ne s'agit pas d'avoir tous les mêmes salaires minimaux, c'est pas avoir le même salaire minimum en France et en Bulgarie, hein, mais il s'agit de vérifier que dans tous les pays, il y a un salaire minimum décent compte tenu du niveau de vie du pays. Et la Commission européenne, dès les premiers jours de la crise, a autorisé les États à jeter totalement aux orties les limites des règles budgétaires. La France va faire 11% du PIB de déficit public cette année, et pas 3. Hein. Oui. Et l'année prochaine, on fera encore beaucoup. Je pense qu'on a une vraie réflexion sur le rôle de l'Europe. Moi, je suis très impressionné par ce que fait Ursula von der Leyen. Je trouve que c'est un vrai tournant. On va émettre ensemble pour financer des investissements. On a cette réflexion sur une protection sociale minimum dans tous les pays. Il y a le plan vert. Honnêtement, c'est assez impressionnant. Il y a un vrai changement, je trouve. Donc ça devient très injuste de dire que notre problème, c'est l'Europe. Je pense que l'Europe, notre problème, c'est quelques pays qui n'ont pas tellement envie de jouer ce jeu-là. On voit bien qu'il faut convaincre les Autrichiens, les Hollandais.
Oui, Patrick Artus, c'est justement, on pose la question du collatéral. Quelles sont les garanties?
Là, il n'y en a pas. Si vous voulez, c'est la création monétaire. Donc, il faut comprendre que nous, par exemple, l'État français finance, par exemple, le chômage partiel, il émet de la dette. Cette dette est immédiatement achetée par la BCE, en fait c'est la Banque de France, hein, mais c'est pour le compte de la BCE, qui paye en créant de la monnaie. Donc comme le disait notre auditrice, c'est effectivement la planche à billets, comme on disait dans le temps. C'est comme si on donnait de la monnaie directement aux personnes qui sont au chômage partiel. Hein. La dette de l'État, elle est créée puis détruite instantanément. Donc il n'y a pas de problème de dette. La question qu'il faut se poser effectivement, c'est qu'est-ce qui se passe quand on crée une quantité invraisemblable de monnaie? Et quand on crée une quantité invraisemblable de monnaie, ce qu'on a vu, c'est qu'on faisait apparaître ce qu'on appelle des bulles. C'est-à-dire qu'il y a un certain nombre de prix qui sont plus les prix des biens, qui sont par exemple les prix de l'immobilier qui se mettent à s'envoler. Et c'est ça. Alors, c'est pas un collatéral, mais il faut se demander quel est le coût de cette politique. Si on n'avait pas eu l'intervention de la BCE, le coût de cette politique, ça aurait été une hausse énorme de la dette avec des difficultés de financement, une hausse des taux d'intérêt, la nécessité de monter les impôts. Là, on évite ça, mais on a un autre coup qui est l'inondation monétaire, pas seulement de l'Europe. Et probablement, ça veut dire des bulles sur les prix des actifs, hein, des hausses très, très fortes probablement des prix de l'immobilier. Voilà. Et puis sur...
Attention aux bulles, attention aux bulles. On en reparle après cette petite pause. Merci beaucoup, à tout de suite.
Oui, merci de nous avoir appelés et puis vous continuez de nous appeler jusqu'à 14h. Vous avez beaucoup d'interventions très intéressantes et des questions peut-être à poser à Patrick Artus. A tout de suite.
Ici Sud Radio. Les Français parlent aux Français. Les carottes sont cuites. Les carottes sont cuites.
Sud Radio, Berkov dans tous ses états.
Dans tous nos états, évidemment, que l'on parle du plan économique, du plan identitaire, etc. Encore une fois, il ne s'agit pas du tout de jouer la Cassandre ou les prophètes d'Apocalypse, on déteste ça. Il s'agit simplement de mettre comme toujours, les mots MOTS sur les mots MAUX. Patrick Artuste, juste une question pour vous. On a parlé de la planche à billets, de la politique de la planche à billets, entre guillemets, bien sûr, de vastes guillemets. Mais quand vous parlez des bulles, quel danger pour ces bulles qui sont en train incontestablement de se créer? Entre deux mots, il faut choisir le moindre. Mais quel est le danger possible pour ces bulles qui peuvent se créer?
Si vous voulez, la bulle la plus inquiétante, c'est la bulle immobilière. Donc, si on recrée une bulle immobilière, ça me paraît extrêmement probable. Le mécanisme est très simple. Les banques centrales des pays de l'OCDE, cette année, vont créer 10 000 milliards de dollars de monnaie supplémentaire, hein, à cause de la crise.
6 000 milliards.
10 000 milliards. 10 000 milliards.
10 000 milliards. Ça veut dire que
la quantité de monnaie va augmenter de 70% en un an. Et cette monnaie, elle va être utilisée. Donc, si vous êtes un investisseur, un épargnant, cette monnaie, vous allez l'utiliser pour acheter des actions, acheter de l'immobilier, etc. Et en particulier de l'immobilier. Donc, je pense qu'il faut s'attendre, et on l'a déjà vu, hein, on l'a déjà vu depuis 20 ans, à une hausse très forte des prix de l'immobilier. Vous savez que depuis maintenant 30 ans, les prix de l'immobilier en France ont doublé par rapport au prix des biens et ont augmenté de 60% de plus que les salaires. Hein. Et donc rien qu'en disant ça, vous voyez quel est le problème associé, c'est qu'on fait monter le coût du logement. Hein. Et donc ça crée d'énormes inégalités patrimoniales, parce que bien sûr, si les prix de l'immobilier augmentent, c'est très bon pour les gens qui sont déjà propriétaires et c'est très mauvais pour les gens qui doivent le devenir. Hein. Et donc c'est un coût très subtil finalement de cette crise, parce que vous avez raison de dire qu'on a hiérarchisé les risques. Le premier risque, c'était de laisser les entreprises faire faillite. Donc, pour l'éviter, on injecte énormément d'argent dans l'économie. Le deuxième risque, c'était une crise de la dette, hein, avec trop de dette publique. Pour l'éviter, on finance ces déficits publics par de la monnaie et pas par de la dette. Et les troisièmes risques, malheureusement, qu'on ne pourra pas éviter, c'est les désordres qui viennent de l'excès de création monétaire. Alors, on peut quand même peut-être essayer de les éviter. Alors il y a un nom affreux, les économistes appellent ça, ou les banques centrales, les politiques macro-prudentielles. Ça veut juste dire qu'on essaie par ailleurs d'empêcher, par exemple, la bulle immobilière. Et certains pays le font très bien, comme le Canada ou la Suisse. Par exemple, vous limitez la capacité d'emprunt pour acheter des logements, ou bien vous taxez les plus-values en capital à court terme. Fondamentalement, on se prépare un monde de bulles, hein, après cette crise.
Eh bien, écoutez, on va suivre ça. Merci, Patrick Artus. Mais c'est vrai que ce monde de bulles, en tout cas, il faut toujours choisir. Et c'est ça, entre deux inconvénients, c'est ça aussi la politique, c'est ça aussi l'art de gouverner. D'autres auditeurs, cher Augustin?
Oui, puisque dans ce monde de bulles, il y a aussi une bulle de liberté sur Sud Radio pour vous exprimer. Et nous sommes tout de suite avec Jean-Paul de Draguignan. Bonjour, Jean-Paul.
Bonjour, bonjour, oui, André, bonjour à toutes et à tous, et merci pour cette bulle de liberté. Voilà, aujourd'hui, je suis à la fois en colère et dans le rejet de notre gouvernement, de nos dirigeants, voire même du président de la République, parce que tout ce qui s'est passé et qui se passe avec ces manifestations que l'on laisse faire et dégénérer est tout simplement scandaleux. Je voudrais dire d'ailleurs que je ne pense pas que la famille Traoré soit représentative de toutes les personnes noires de France. Voilà. Me dis, et j'espère d'ailleurs, j'en connais quelques-uns et quelques-unes, que ces personnes, pour la majorité, se sentent bien dans ce pays, ou du moins se sentaient bien jusqu'à présent, parce que je suppose qu'une partie d'eux sont aussi en colère de voir tout ce qu'il se passe. Voilà. Ça, c'est une chose. Je voudrais dire aussi que je suis scandalisé par les prises de position d'Éo Marcy, de cette jeune femme, là, dont j'ai oublié le nom,
Virginie
de la télé-réalité. Je pense que ce monsieur a oublié que c'est quand même dans ce pays qu'il s'est fait connaître. Voilà. Et que même s'il a vécu dans des quartiers un petit peu difficiles, alors, je ne renie pas les interpellations aux faciès et tout ça, je suis persuadé que ça existe. Mais il faut aussi reconnaître que souvent, dans ces quartiers, malheureusement, les jeunes n'ont pas le respect nécessaire aussi envers les forces de l'ordre. Voilà. Et je pense que tout cela crée des amalgames qui deviennent très compliqués Je suis, comment dirais-je, assez rebelle moi-même envers les forces de l'ordre. Je n'ai jamais été, comment dirais-je, apprécié d'être arrêté. Hein. Mais j'ai toujours gardé le respect de ce qu'ils sont et de ce qu'ils représentent aussi pour le pays, tant qu'on ne me manque pas de respect, bien sûr. Chose qui n'est jamais arrivée. Voilà. Donc, tout cela fait que dans ce pays, maintenant, ça devient irrespirable. On donne de l'importance à des personnalités qui ne devraient pas en avoir. Voilà. On leur donne la parole pour tout, pour rien. Ils ont pris un melon pas possible. La France n'est pas les États-Unis. Voilà. Je dis maintenant, tout cela suffit. On vient insulter Colbert, tout mélanger dans un délire total. La France insoumise à une grande, comment dirais-je,
responsabilité,
culpabilité dans tout ça aussi, ainsi que toutes ces associations de soi-disant contre le racisme et qui ne font que du racisme anti-blanc. Voilà. Et ça aussi, maintenant, je pense que l'État devrait arrêter de les gaver hein, pour pouvoir quantifier quelques électeurs de tous ces gens qui, je ne sais pas ce qu'ils font de leur vie, mais moi je suis au travail tous les jours, comme vous, et comme bien d'autres, et comme des tas de personnes noires qui sont aussi au travail tous les jours et qui partagent la vie de tous les Français, comme vous et moi. Voilà. Donc tous ces gens, maintenant, nous emmerdent. Voilà. Je le dis haut et fort, et je crois que cela suffit. Et notre gouvernement devrait quand même faire le nécessaire pour que dans ce pays, on retrouve un peu de raison et de sagesse. Voilà ce que je voulais dire, André.
Message transmis, Jean-Paul, et j'espère qu'il sera écouté. Augustin ?
Oui, nous avons aussi un message qui nous arrive tout de suite de Youssef qui nous appelle du Val-de-Marne. Bonjour Youssef.
Oui, bonjour, vous m'entendez ?
Oui, très, Youssef, très bien. On vous entend très bien. Bonjour.
Bon, nickel. Pour commencer, Monsieur Berkoff, merci beaucoup pour tout ce que vous faites. Vous m'avez vraiment réconcilié avec les médias d'une manière générale. Je n'ai pas la télé à la maison et le seul média que j'écoute, c'est Sud Radio. Donc merci pour tout ce que vous faites. Je voulais réagir au sujet de la manifestation antiraciste et je voulais dire que je ne suis pas du tout d'accord avec la revendication en question. Je pense que tout est un petit peu mélangé, que bien sûr il y a des problèmes, il y a des gens bien partout, des gens mauvais partout, mais que tout est mélangé. Et la France est un beau pays, les Français sont généralement gentils. Donc voilà, je voulais faire passer un petit peu ce message. Vive la France, c'est quand même un pays plutôt agréable, qui a des problèmes comme tous les pays, mais voilà, il faut arrêter d'exciter tous ces sujets sensibles.
Et... écoutez Youssef, merci de ça. Merci de ramener le calme. Non mais de dire, attendez, il faut se calmer quoi. Il faut arrêter de s'exciter les uns des autres et d'en faire une marchandise surtout, d'en faire un fonds de commerce.
J'ai mon papa qui est marocain, ma mère qui est française, donc je suis un petit peu métissé. Et mon père marocain m'a toujours dit qu'il était fier de vivre en France, que c'est un pays de liberté, etc. Donc je voulais un petit peu, au passage, faire passer le message. Est-ce qu'il est possible de parler d'une dernière chose très rapidement ou pas ?
Allez-y.
D'accord. Comme tout événement, il y a toujours plusieurs facteurs qui produisent des effets, etc. etc. Parmi les facteurs, je pense qu'il faudrait interroger le système scolaire français, parce que j'ai grandi en banlieue parisienne, j'ai fait plusieurs lycées de banlieue parisienne, les Ulysse, Massy, et de l'enfance jusqu'à l'adolescence, jusqu'à l'âge adulte, on grandit à l'école avec cette idée que la gauche c'est le bien, la droite c'est le mal, il faut toujours voter à gauche...
C'est les profs qui vous disent ça, Youssef, une question. Oui. Qui vous dit ça ? C'est les instituteurs, c'est les profs, c'est qui ? Quand non, vous dites j'entends ça, on entend ça tout le temps, c'est qui ? C'est tout le monde ?
En fait, c'est pas dit explicitement, c'est pas quelqu'un qui vient vous dire explicitement « Oui, vote à gauche, tu n'as pas le choix, sinon tu fais partie du camp du mal ». Ça se passe pas du tout comme ça. J'ai grandi aussi avec des animateurs de quartier, parce que j'étais dans un petit quartier, et c'est une espèce d'ambiance générale, si vous voulez, parce que... Et on nous fait comprendre indirectement, je vais vous parler d'une anecdote, en 2007, c'est la première fois que je suis allé voter, je crois que c'était pour entre Sarkozy et Ségolène. Et on nous a fait, on avait compris, si vous voulez, donc tous les jeunes étaient partis voter, et on nous avait fait comprendre indirectement, c'est le regard des autres, le jugement des autres, que bah si on votait, mais si on votait pas Ségolène et si on votait Sarkozy, c'est qu'on était grosso modo raciste, etc., etc.
Fasciste et compagnie. Ouais.
Oui, voilà. Donc je pense vraiment que parmi l'un des facteurs majoritaires qui produit ce type de résultat que nous avons aujourd'hui, parce que les jeunes ont grandi, il y a l'école, et tant qu'on ne s'interroge pas sur ce système solaire et l'idéologie qui est véhiculée, je pense qu'on n'arrivera pas à régler le problème.
Mais je crois que vous avez tout à fait raison. Je crois que c'est un des facteurs les plus importants. Et c'est ce que vous dites, et c'est très intéressant. Ce que vous avez précisé, c'est que c'est pas seulement X ou Y qui parle, c'est l'air autour, l'air du temps. On dit voilà. Et puis, évidemment, c'est comme ça que la pensée dominante passe. On dit voilà, il faut penser ça, parce que si tu penses pas, eh bien, tu vas être classé ceci. Oui. Et les gens, du coup, ils ont peur. Et ils s'arrêtent de faire quoi que ce soit, parce qu'ils disent oui, je vais passer pour un réactionnaire ou un monsieur. Faut se débarrasser de ça. Soyez vous-même.
Et vous savez que l'humain a besoin d'être dans des groupes sociaux. On veut pas être tout seul, on veut pas être exclu. Et du coup, il y a toute cette épée de Damoclès qui pèse, c'est-à-dire, si tu votes pas pour la même chose que nous, c'est que t'es pas d'accord avec nous, donc on te rejette un petit peu du groupe. C'est ça, parce que t'as voté contre nous, etc., etc. Et tout ça, à mon avis, c'est des choses qu'il faut t'interroger et régler. Voilà.
C'est très vrai. Merci Youssef, merci de votre témoignage. Lise, elle me paraît frappée au coin du meilleur sens. À tout de suite.
Merci beaucoup Youssef. Vous continuez de nous appeler au 0826 300 300. Alors ça peut être des coups de gueule, ça peut être des messages d'apaisement, ça peut être des réactions à chaud à l'actualité. On parle évidemment beaucoup des manifestations ce week-end contre les violences policières et contre le racisme en France. Vous continuez de nous appeler au 0826 300 300. On se retrouve après cette courte pause.
Radio. Les Français parlent aux Français. Les carottes sont cuites. Les carottes sont cuites.
Sud Radio, Berkov dans tous ses états.
Et dans tous nos états, évidemment, avec vous, auditeurs de Sud Radio, on remercie Patrick Artus qui nous a apporté de très beaux éclaircissements et très utiles. Et c'est toujours à vous, on vous écoute.
Oui, nous sommes avec Yves qui nous appelle de Toulouse. Bonjour Yves.
Oui, bonjour Sud Radio, bonjour André.
Bonjour Yves.
Voilà, alors, disons que sur le dernier auditeur, je suis en totale contradiction, mais là n'est pas mon propos. Je suis en totale contradiction. Vous étiez d'accord avec ce qu'il disait. Moi, je suis en total désaccord avec ce qu'il dit. Mais bon, peu importe, c'est une idée où je suis en total. C'est une appréciation où je suis en total désaccord.
Mais heureusement que vous êtes. Vive les désaccords aussi, c'est très bien, Yves. Mais je crois que vous vouliez parler d'autre chose.
Heureusement. Et c'était d'ailleurs du désaccord que naît souvent les vraies avancées, si j'ose dire, philosophiques, psychologiques, tout cela.
Bien sûr.
Heureusement que les débats sont faits par des personnes qui ne sont pas du même avis. Bonjour, le débat, d'ailleurs.
Ce sera embêtant.
un petit aparté, il y a beaucoup de débats que je regarde peu, c'est sur la télé, peu, mais qui sont souvent de personnes de même avis, ou alors de personnes d'avis contraires, qui s'invectivent. Non, si on s'invective, ce n'est pas un débat.
Bien sûr. Voilà. Alors dites-nous, de quoi vouliez parler, vous.
Ça va vous titiller, peut-être, mais peu importe.
Mais allez-y, allez-y.
Vous vous moquiez un peu de M. Delprécy, parce qu'à une certaine époque, il disait ci, et maintenant, il disait ça. Oui, mais moi, je dis, bon, je vais essayer de l'étayer, je ne vais pas dire non. Qu'il faut pas réécrire l'histoire. Vous savez, il y a deux mois en arrière, et c'était comme si j'ose dire, à l'époque des cavernes, quoi. Ça on compterait 1000 ans, deux mois de maintenant. La science a fait de telles avancées que tout compte fait, deux mois, c'est très rien, c'est beaucoup, mais c'est rien parce que, voilà, donc, que la science évolue, ne change pas d'avis. Non, la science ne change pas d'avis.
Elle n'a pas évolué en deux mois, la science. Ouais, allez-y. Voilà, non, mais attendez, vous dites, évolue, Yves, vous dites qu'on ne savait pas, attendez, Yves, je vous pose la question. Vous vous dites, oui, Delfrécy, mais il y a deux mois, on ne savait absolument pas ce qu'on sait aujourd'hui. C'est ça que vous êtes en train de dire. C'est ça?
Un petit peu, oui, oui. Non, non, je ne suis jamais catégorique du SOS de l'ordre, surtout sur ça. Non, parce que, regardez bien, il y a deux mois, presque l'ensemble de la communauté disait que les enfants étaient très porteurs et tout cela. Et bien maintenant, l'ensemble de la communauté dit que non, ce n'est pas vrai. Les enfants ne sont plus quoi, porteurs, tout cela. Et bien voilà, et bien, c'est en deux mois qu'on l'a su. On ne pouvait pas le savoir avant, on ne connaissait pas le virus. Comment voulez-vous savoir? Mais je voulais extrapoler. Parce que, bon, ouais, je vois bien la petite musique qui est en France, oui, ça ne s'est pas passé comme il faut, on a fait ci, on aurait dû faire ça. Moi, je regarde, voilà, j'observe et je regarde. Je vois en France, bon, par rapport les Anglais. Ah oui, eux, ils ne voulaient pas confiner. Bon, mais mon pauvre ami, ils ont confiné un peu tard, 35 000 morts. En Europe, les Suédois, ah, eux, c'était les meilleurs du monde. Eux, ils ne confinaient pas, ils disaient aux gens, soyez responsables. Et bien maintenant, à partir d'aujourd'hui, ils commencent à confiner en se disant, eh bien, ce qu'on a fait, on l'a mal fait. Puis après, je n'ose pas en parler, mais je vais quand même le dire. Monsieur Trump disait, Monsieur Trump, et pas son porte-parole, eh bien, si vous voulez, on prend de la chloroquine avant d'être malade, et si vous voulez, eh bien, on peut boire un peu de javel, ça fera de mal à personne. Vous voyez, imaginez que quelqu'un en France ait dit quelque chose comme ça. Mais on l'aurait abattu sur place. On l'aurait abattu.
Oh, pas vraiment.
Et il y a aussi un petit bémol. L'autre jour, alors là j'avais téléphoné, et quand même je l'ai un peu mal pris de votre part. Vous vous trouvez
allez-y.
Un pseudo-journaliste par rapport à Trump qui racontait l'histoire des États-Unis. Pas très bien.
Non mais vous parlez de qui là? Vous parlez de qui?
M. Biden, et qui a traité Biden d'un vieillard sénile. Monsieur Bercoff, il ne faut pas laisser passer ça. Monsieur Biden est peut-être âgé, peut-être, mais ce n'est pas un vieillard.
Non, mais on est tous... oui, alors moi je vais vous rendre, Yves, trois choses. Attendez. Non, mais écoutez aussi, si on fait un débat, on débat. Première chose, quand vous dites l'ensemble de la communauté scientifique, mon cher Yves, c'est faux. Dès le départ, il y a trois mois, il n'y avait absolument aucun accord dans l'ensemble de la communauté scientifique. Ça, je peux vous le dire, j'ai suivi cette enquête, je ne suis pas le seul à pouvoir le dire. Il y avait dès le départ, Agnès Buzyn a très bien dit, vous dites en décembre, elle a très bien dit, Agnès Buzyn elle-même, il y avait une épidémie en Chine. Elle a prévenu Édouard Philippe et Macron dès début janvier. Des fin décembre, début janvier, hein, nous sommes en juin aujourd'hui. Non mais il faut dire les choses aussi, vous voyez, et regardez ce qui se passe. Ce n'est pas vrai que l'ensemble de la communauté scientifique était d'accord. Deuxièmement, on a commencé à attaquer, je ne dis pas qu'il a raison ou pas, je ne suis pas médecin. Donc le protocole du Diderot, je ne sais pas s'il est bon ou pas le protocole du Diderot. Ce que j'ai constaté, c'est qu'on a vu les études du Lancet, les revues scientifiques les plus importantes ont fait des études tronquées et truqué, parce que ce que vous ne voyez pas derrière, il y a la guerre des laboratoires, il y a la guerre de tous les gens qui rêvent d'un vaccin pour 7 milliards d'habitants. Et imaginez si c'est une grippe, c'est 7 milliards d'habitants qu'il faut vacciner tous les ans. Vous voyez le fric? Alors attention, ne vous laissez pas, vous non plus, enfumer par un certain nombre de gens qui sont allés qui disent « mais non, il n'y a pas de problème, il y a ceci, il y a cela ». On ne sait pas. Oh, il y avait une grande division. Moi, encore une fois, je ne suis pas du scientifique, mais j'ai entendu tout et le contraire. Tout et le contraire et l'incohérence. Et pardon. Et alors là, on arrive. On a eu Patrick Artus. Pardon. Moi, je ne dis pas que le gouvernement a mal fait ou mal fait. C'est facile de critiquer. Mais écoutez, les masques, on aurait pu se dire une pandémie. Il y a eu des pandémies. On aurait pu se dire. On peut prévoir les masques, on peut prévoir les tests, on peut prévoir un tout petit peu. C'est ça le rôle d'un gouvernement aussi, c'est de prévoir l'imprévisible, de prévoir même le pire. Donc attention, ne croyez pas que les choses sont noires et blanches aussi de l'autre côté. C'est plus compliqué et je vous assure que la communauté scientifique en tant que telle n'était absolument pas d'accord. Simplement, vous aviez beaucoup de gens qui répercutaient le même discours. Donc on a entendu un discours et rappelez-vous, Raoult c'est un charlatan, c'est un rigolo, c'est un imbécile, c'est ceci, c'est cela. Bon, eh ben c'est pas ça. C'était... Et puis deuxièmement, vous êtes avec nous, vous êtes là, cher Yves.
D'accord.
Est-ce que Yves est là? Alors,
oui.
simplement une chose,
oui,
je finis là-dessus.
Je voudrais répondre un petit peu.
Allez-y, répondez, voilà. Allez-y.
L'histoire du professeur Raoult, elle est très très simple, ça n'a rien à voir avec le médecine, le professeur Raoult. Il est pro, mais cela, tout le monde le sait, et même lui le sait. La chloroquine n'a jamais rentré en compte comme médicament. Ça, tout le monde le sait. Même lui le sait. Mais
ah bon, sur attendez, la chloroquine. Mais la chloroquine, je l'ai pris moi 50 fois en allant en Afrique. La chloroquine était le médicament sur le lupus et la malaria. Attendez, il faut se renseigner un tout petit peu quand vous parlez. Excusez-moi. Vous dites c'est un médicament, la chloroquine, c'est quoi? C'est un carambar? Mais qu'est-ce que vous racontez? La chloroquine a été prise pendant 70 ans, un peu partout, pour faire attention à la malaria, pour faire attention au lupus et à la polyarthrite. Et vous dites c'est pas un médicament? Enfin, Yves, vous pouvez pas dire des choses comme ça quand même. Renseignez-vous, pardon, mais renseignez-vous. Vous pouvez pas dire que la chloroquine c'est rien, etc. Mais je ne défends pas le truc, mais enfin... Ne vous laissez pas enfumer par la propagande gouvernementale qui, là-dessus, a été propagandiste. Je défends pas Raoult, mais je peux pas laisser dire que la chloroquine n'est pas un médicament. Enfin, 60 ans, on l'a pris. Des millions de gens l'ont pris. C'est quoi? C'est un carambar? Pardon Yves, mais écoutez, on reprendra cette discussion. Mais encore une fois, ne vous laissez pas enfumer. Je dis ça à tous les auditeurs de Sud Radio, quels qu'ils soient. Moi aussi, je peux me tromper. Berkov vous dit des conneries. Peut-être Berkov vous dit des conneries. Mais moi, quand j'entends ça sur la chloroquine, je ne peux pas laisser passer. Je ne peux pas laisser passer ça. Il faut quand même regarder, se renseigner. Et ça, c'est à chacun d'entre vous. Ne croyez ni Berkov, ni Tartampion, ni qui vous voulez. Mais renseignez-vous. Et je vous assure que c'est comme ça qu'on va tous avancer. En tout cas, merci à Yves et merci à vous tous, parce que c'est comme ça qu'on avance.
Oui, merci évidemment. Vous avez été très très nombreux à nous appeler au 0826 300 300. Et on se retrouve évidemment avec André Berkov dans Tous ses états demain dès midi. Vous pouvez évidemment retrouver cette émission en podcast sur sudradio.fr avec tous les débats qu'on a eus, notamment sur les manifestations anti-police et anti-racisme en France. Et puis tout de suite, eh bien, vous retrouvez Brigitte Lahaye sur Sud Radio.